Et bonjour, Annick Delefoss au micro de Radio FM+. Tous les vendredis à 11h, retrouvez Scénorama, votre émission dédiée à l'actualité culturelle, avec rediffusion le soir même à 20h, ainsi que le samedi à 12h10, et écoutable en podcast sur radiofmplus.org. Aujourd'hui, j'accueille en première partie un trio de choc, Nicolas Auton, Jacques Allaire et Fred Bory, pour la nouvelle création de Machine Théâtre, une libre adaptation de L'Éternel mari de Dostoïevski. À voir absolument entre le 2 et le 4 novembre au Théâtre d'Eau. En seconde partie, Anne-Lise Salon, la responsable artistique du Théâtre La Vista, avec Vanina Castelli, nous présentera sa programmation en grande partie jeune public. Ça tombe bien, là c'est le week-end juste avant les vacances scolaires, donc profitez-en pour emmener vos enfants au théâtre. Bonjour tout le monde.
Bonjour Annick.
Alors Nicolas Auton, Jacques Allaire, Fred Bory, les amateurs de théâtre vous connaissent, vous admirent depuis plus d'une décennie, aussi bien en tant que metteur en scène que comédien. Mais il me semble que le trio que vous formez pour cette création est une première, non ?
Oui. Jacques, enfin Fred, Frédéric, ça fait longtemps qu'on se côtoie, on travaille ensemble. Lui en tant que metteur en scène et moi en tant que comédien ou le contraire. Là, c'est le contraire. Mais Jacques, c'est la première fois que je le rencontre en tant que comédien. Et c'est un bonheur.
J'imagine bien. Alors, j'aimerais bien connaître le pourquoi et le comment de vos nouvelles aventures théâtrales en ce qui concerne donc l'éternel mari.
Oui.
Le pourquoi, le comment ?
Le pourquoi, c'est que en fait, ça fait longtemps que j'avais, quand j'ai découvert Dostoïevski très tardivement, j'ai lu donc l'éternel mari en lisant à peu près toute l'œuvre de Dostoïevski, et je m'étais mis dans un coin de la tête que c'était vraiment fait pour le théâtre, et j'ai pensé très vite, mais c'est il y a 4-5 ans, à Frédéric et Jacques dans ce duo, parce que c'est comme s'il avait condensé un peu tous les personnages en deux personnages, et c'est très 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 théâtral. Chez Dostoïevski, il y a une oralité extrêmement puissante, extrêmement forte, mais là c'est vraiment des scènes de théâtre.
D'accord, oui. Enfin bon, voilà, c'est la création, on n'a pas encore vu. Mais je pense que tous les deux, vous allez faire un sacré, vraiment sacré duo. Alors, qui nous fait un petit rappel sur la vie et l'œuvre de Dostoïevski ? Alors donc, bon, plus grands romanciers russes, ça tout le monde le sait.
Non, mais Dostoïevski, il a deux grandes parties dans sa vie. Il est né en 1860, il est mort en 1880. Et il y a eu deux grandes parties chez Dostoïevski, c'est qu'à 20 ans, 22 ans, il s'était déjà un auteur en ayant écrit deux livres importants, adulés de tout le monde. Il avait même une réputation un peu de se la jouer un peu, etc. Enfin, il était regardé de travers par les auteurs de l'époque, mais il était aussi dans des mouvements révolutionnaire, et il s'est fait arrêter alors que apparemment il préparait un attentat contre le tsar, et il se retrouve devant le peloton d'exécution donc à 22 ans, et au moment où les soldats ou les militaires doivent tirer, le tsar remet en question cet acte et l'envoie au bagne pendant 4 ans de bagne et 4 ans de relégation, et après, quand il sort de cette relégation, là, tout d'un coup, il y a une deuxième partie chez l'auteur de Dostoïevski, où même il bascule idéologiquement, mais là, ça serait un peu plus long à raconter. Mais c'est là où il va tout d'un coup écrire ce qu'on appelle les cinq éléphants, c'est-à-dire qu'il va commencer avec les carnets du sous-sol, mais les cinq éléphants, c'est Crime et Châtiment, les démons, l'idiot, enfin, dans l'ordre, l'idiot, les démons, l'adolescent et les Karamazov.
Oui. Et donc, pas mal de ces ouvrages ont été montés en théâtre. Pour l'Éternel Marie, qu'en est-il ?
Et ça a été monté par Jacques Mauclair en 1953. Et ça a été remonté, je pense, par Roland Monod à Marseille, peut-être en 70, quelque chose comme ça, mais qui n'avait pas fait, qui n'avait pas fait grand bruit. Mais par contre, la première version de Jacques Mauclair, avec Jacques Mauclair, enfin, c'est un... Je ne sais pas si les gens vont connaître, mais c'est un acteur extrêmement important de l'époque. Et il avait fait un énorme succès avec cette adaptation.
D'accord. Et donc là aussi, vous parlez d'adaptation. Il s'agit d'une nouvelle adaptation, d'une nouvelle traduction.
Oui, c'est une nouvelle adaptation qu'on a fait tous les trois, en fait, chez moi, en lisant le roman. Parce que c'est un petit roman. Mmh. C'est un petit roman de 243 pages. Et on a tiré 35 pages de ce roman et on l'a fait ensemble, tous les trois.
D'accord. Et une nouvelle traduction aussi ou une traduction récente ?
Markovitch, qui date de maintenant, qui est chez Traduction, on peut dire que ça commence à dater, je crois que ça a 25 ans. Peut-être pas 20 ans, quoi.
Oui. Oui, il n'y en a pas eu 36 000 de nouvelles traductions, en fait.
De nouvelles, non. Mais il y a des traductions plus anciennes que Markovitch.
Oui, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce que ça raconte, cette Ertène Almari ?
Jacques, tu veux ?
Jacques Allaire,
Oui, bon, c'est quand même très difficile à résumer, mais on peut faire, pour faire rapidement, un personnage qui s'appelle Troussotsky va venir à Pétersbourg pour des affaires de promotion dans l'administration, qu'il espère. Et il va essayer de forcer la porte d'un homme qui s'appelle Vetchaninov, qui en fait s'avère être l'amant de sa femme. Mais sa femme est morte. Et lui, semble-t-il, commence à comme pourchasser les anciens amants de sa femme. Voilà. Et il vient avec sa petite fille qui a 8 ans, dont on comprend qu'en fait, ce Vetchaninov en est le père. Donc, va suivre une série de confrontations dans différents tableaux. Tout le texte est construit comme ça, sur des tableaux de confrontation de ces deux personnages où on n'arrive jamais vraiment à savoir ce qui est su, ce qui n'est pas su, ce qui a vraiment eu lieu, à quel moment ça a eu lieu. Et comme une espèce d'enquête qui confine entre le thriller psychique, le drame vaudevillesque et des psychologies quasiment psychotiques de deux personnages dont on se demande s'ils sortent pas d'un film de Cronenberg, quoi.
D'accord. Alors on va découvrir un peu plus ces personnages. Fred Bory, quel personnage donc vous interprétez, vous ?
Moi, j'interprète Vetchaninov, l'ancien amant donc de la femme défunte de Troussotsky, et qui déjà au début de la pièce est dans un tourment. Et dans le roman, je veux dire, par rapport à l'adaptation qu'on a faite de manière informelle dans l'appartement de Nico pendant assez longtemps, dans le roman, Vetchaninov croise plusieurs fois un être qui lui semble, qui lui semble connaître, qu'il semble connaître, et il ne sait pas pourquoi il tombe dans une fièvre, une torpeur personnelle. Et en fait, c'est comme si le passé revenait à la surface. Et soudainement, en effet, comme le disait Jacques très bien, en pleine nuit, quelqu'un essaye de forcer sa porte. Et c'est donc l'ancien mari de son amante qui l'a énormément impacté à l'époque. Et Troussotsky, donc ce personnage qui vient lui annoncer que cette femme est décédée en pleine nuit, à 3 heures du matin.
Et carrément, il force la porte, quoi.
Il cherche carrément à forcer la porte.
Oui, à forcer la poignée de la porte, en tout cas. Et donc, à partir de là, en effet, il y a un jeu psychologique du chat et la souris qui un peu, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense à Mankiewicz qui amène une tension énorme et parfois ça on pourrait penser à l'emmerdeur, le film l'emmerdeur. D'un coup, ce Troussotsky va mettre un enfer à ce Vetchaninov. Et en effet, il va découvrir que ce Troussotsky a une petite fille. Et je laisse après la narration du spectacle raconter le reste.
Oui. Oui. Et vous, alors un peu plus de détails sur votre personnage.
C'est un personnage assez difficile à cerner pour une raison assez particulière, c'est que Dostoïevski écrit depuis le point de vue de l'autre personnage, depuis le point de vue de Vetchaninov. C'est-à-dire que tout ce qui est raconté, vu, dit. Est dit, vu, raconté, mais en fait à travers la vision qu'en a Vetchaninov. Ce qui fait que Troussotsky est un personnage étrangement en creux, alors qu'il est plein, qu'il parle beaucoup, qu'il est pratiquement toujours sous, mais on n'arrive jamais à avoir accès à une psychologie construite, réelle, et connaître profondément ses intentions. Ça reste toujours, sinon nauséeux, du moins comme extrêmement tortueux, ça part un peu dans tous les sens, on ne sait jamais où se trouve le type. Et abyssal, oui. On ne sait jamais s'il n'y a pas des choses trappes partout, que ça va s'ouvrir tout le temps. Et Vetchaninov, évidemment, tombe dedans, y compris par l'état dans lequel il est lui-même, dont on comprend que c'est un état presque littéraire chez Dostoïevski, qui est presque un état, de torpeur. Des êtres humains, et particulièrement des hommes, dans leur relation qu'ils ont autant à l'amour qu'à la paternité, la responsabilité, qui sont des notions complètement explosées dans ce livre.
Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces deux personnages, autour de la défunte, qui est décédée quelques mois auparavant, ils vont construire tout au long de la pièce une sorte de nébuleuse, presque, de la psyché humaine, et abyssale, vertigineuse, drôle, mais absolument pathétique quand même, et même pitoyable. Donc je pense que c'est une pièce, je crois que c'est dans la couverture, dans le dos du livre de la traduction qu'on a de Markovitch, je trouve que c'est assez bien dit, c'est quelque chose qui parle quand même d'un échec permanent de la répétition, quoi, entre deux êtres qui deviennent inséparables et en même temps qui veulent en tout cas Vetchaninov voudrait s'en débarrasser et la vérité plane entre leur dialogue et n'arrive jamais à surgir et ça devient infernal, un duel à fleur et moucheté, je crois que c'est comme ça que dit Nico parfois.
Moi, j'ai jamais dit ça.
Pardon.
Mais en fait, un couple mari-amant, quoi.
Oui.
Avec donc les problèmes ou les difficultés ou les règlements de compte qu'il peut y avoir dans tous les couples.
Oui, mais je crois. Non, mais je crois que. Ils deviennent un couple réel de théâtre. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est que Dostoïevski s'empare finalement d'un canevas qui serait le vaudeville à la française traditionnel en fait presque l'image d'Épinal seulement lui il a la perversité j'ai envie de dire presque de le situer d'un coup bien après et d'en faire une histoire sur les conséquences de ce vaudeville et sur les conséquences et dramatiques et drôlatiques de ce vaudeville entre Vetchaninov et Troussotsky.
C'est un peu comme un vaudeville où en fait ce serait l'inconscient qui parle, quoi.
D'accord. Intéressant. You
sure you wanna be with me? I've nothing to give.
J'ai sans doute le plaisir de parler à Alexey Ivanovitch.
Quoi ? Vous êtes donc vraiment Pavel Pavlovitch Troussotsky ?
Nous nous sommes connus voici 9 ans, et si monsieur daigne seulement se rappeler, nous avions des relations amicales.
Oui, mettons, mais en ce moment, il est 3 heures du matin. Et vous, ça fait 10 minutes que vous essayez de voir si c'était fermé chez moi.
3 heures. Ah, mais oui, 3 heures. Pardonnez-moi, Alexey Ivanovitch, j'aurais dû réfléchir avant d'entrer. J'ai honte même. Je repasserai m'expliquer un de ces jours, et pour le moment...
Ah non. Tant qu'à faire de s'expliquer, que ce soit maintenant. Bienvenue chez moi. Passez le seuil. Vers les pièces. Vous, n'est-ce pas, c'est dans les pièces que vous voulez entrer si vous êtes venu la nuit. Ce n'est pas seulement pour essayer les serrures.
À ce que je vois avant toute chose, ce qui vous frappe, c'est que je sois venu à une heure pareille, et dans des circonstances, n'est-ce pas, tellement particulières. En sorte que, se souvenant du passé et de la façon, n'est-ce pas, dont nous nous sommes quittés, ça me paraît même étrange en ce moment. Du reste, je n'avais même pas l'intention d'entrer, et si ça se trouve comme ça, c'est sans faire exprès.
Comment sans faire exprès ?
Je ne fais que vous énerver. Alors voilà, n'est-ce pas ? Je suis venu ici, ça fait dans les 3 semaines, pour une affaire à moi, parce que je suis Pavel Pavlovitch Troussotsky. Vous m'avez, n'est-ce pas, reconnu ? Mon affaire consiste en ceci, que j'essaie... Enfin, l'essentiel, si vous voulez, c'est que ça fait 3 semaines que je traîne ici et que je traîne comme si j'avais perdu mon but et comme même si j'étais bien content de l'avoir perdu dans l'humeur, n'est-ce pas, où je me trouve.
Mais quelle humeur ?
Voilà, n'est-ce pas ? Dans quelle humeur ?
Merci. Donc, un extrait de L'Éternelle Marie, une libre adaptation de Dostoïevski, donc par Jacques Heller et Fred Bory. Nicolas Auton, comment avez-vous travaillé ? Alors, bon, ok, vous avez travaillé chez vous. Mais.
Il y a du café.
Il y a beaucoup d'ivresse dans cette pièce. Vous avez aussi picolé pendant les séances de travail.
On a très peu picolé.
Pas du tout. Du café.
Oui. Ah ouais, oui. Je sais pas si je vous crois.
Mais si, c'est vrai.
C'était du travail sérieux, là.
Oui, oui. Enfin, sérieux, un peu informel. C'est qu'on s'est retrouvés, tous les trois un peu par hasard. Je leur ai dit, tiens, vous pouvez. On va lire ça, et puis tout d'un coup ça s'est fait comme ça, et puis tous les 3 jours on se disait, si on en a marre, on arrête, on fait autre chose, et puis on continuait la semaine d'après, puis la semaine d'après, ça a tenu comme ça pendant 5-6 mois, à raison de 3 jours par semaine, et puis après on a mis en place des moments de répétition, et puis tout d'un coup ça s'est concrétisé, et puis Jean Varela au domaine d'eau est rentré dans la coproduction, et du coup Alès, et du coup Narbonne, et du coup on a eu 5-6 théâtres qui ont répondu favorablement, et maintenant nous voilà avec un décor et des costumes et un sondier et toute une équipe derrière nous, et ça c'est assez extraordinaire entre le moment où on s'est retrouvé ici au Dôme, où je leur ai dit venez chez moi on va lire ça, et maintenant où on est à une semaine de la première.
Ouais. C'est assez curieux quand même, parce que comment s'est fabriqué le spectacle. Parce que pour la petite anecdote, au bout d'un moment, on a vraiment découvert, enfin moi personnellement, je découvrais L'Éternelle Marie. Je connaissais pas, j'ai trouvé ça, comment dire, absolument débordant de fou rire, tellement que je trouvais que la situation de ce roman était, la narration, l'histoire était incroyable. Mais c'est vrai qu'à chaque rencontre, on a commencé à lire un peu, et au bout d'un moment, pour la petite anecdote, les 7 dernières rencontres qu'on avait avant d'imaginer le monter, on commençait à répéter dans l'appart de Nicolas. Littéralement, on commençait à jouer des scènes sur la banquette, entre 2 cafés. Enfin, ça, c'était très, très drôle.
Mais ça a fait naître toute l'idée de la scénographie, en fait.
Oui.
Ah oui, alors on va voir, mais je suis pas sûr qu'on en parle, parce que c'est quand même une scénographie assez originale. Peut-être laisser la surprise au public, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Peut-être sur la fin, là, on dira quelques mots, mais pas trop, parce que je pense que c'est assez bien peut-être de laisser la surprise. On va écouter un nouvel extrait.
Elle a toujours honte. Elle est toujours timide comme ça. Et fière, n'est-ce pas ? Le portrait de sa mère. C'est ce monsieur qui a connu maman dans le temps. Il était notre ami. Allez, ne fais pas la sauvageonne. Donne-lui la main. Allez. Vous ne pouvez même pas imaginer notre joie devant ce don. Pour moi, elle était tout par son apparition. Si bien que, quand bien même mon humble bonheur viendrait à disparaître, eh bien je me dis, il me restera Lisa. Voilà.
Elle est pas malade ?
Je crois que non. On est une enfant étrange et déjà nerveuse comme ça. Après la mort de sa mère, elle est restée malade 2 semaines, hystérique, n'est-ce pas ? Et tout à l'heure, les pleurs qu'on nous a fait quand vous êtes entrée. Et pourquoi ça ? T'entends, Lisa ? T'entends ? Pourquoi ça ? Toujours parce que je m'en vais, que je la laisse. Donc, n'est-ce pas ? C'est que je ne l'aime plus du tout comme je l'aimais du temps de maman. Voilà de quoi elle m'accuse. Des fantaisies pareilles qui lui entrent dans la tête à une enfant comme ça qui devrait juste jouer avec des poupées. Et là, même pour jouer, elle n'a personne.
Mais parce que vous êtes vraiment que tous les deux ?
Complètement solitaire, n'est-ce pas ?
Mais quand vous partez, vous la laissez donc seule ?
Et comment faire ? Hier, je suis parti, je l'ai même enfermé là, dans l'autre petite chambre. Et c'est pour ça, nos pleurs d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je pouvais bien faire ? Jugez-vous-même. Sinon, elle se met à pleurer, elle file dehors, elle demande à tout le monde dans la cour où est-ce que je suis parti. Et ça, n'est-ce pas ? C'est pas bien. Mais moi aussi, je me pose là. Je pars une heure et je reviens juste le lendemain matin. Ça s'est passé comme ça hier. Heureusement que la propriétaire, en mon absence, lui a ouvert. Elle a appelé un serrurier pour ouvrir la porte. J'en rougis, n'est-ce pas? Je me sens vraiment, n'est-ce pas, comme un monstre. Tout ça, n'est-ce pas, c'est ce brouillard.
Papa!
Encore? Bah, tu recommences encore? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure?
Oh, les gamins, c'est pas facile, hein. Bon, avec les parents aussi, pas évident. Bon, on situe un peu, du coup, cet extrait.
Là, c'est la première fois que Veltchaninov rentre chez Troussovski, et puis tout d'un coup, il entend des cris dans la pièce d'à côté, et il se rend compte qu'il y a une petite fille, et Troussovski va jouer avec les nerfs de Veltchaninov en lui faisant comprendre que c'est lui le père. Et il maltraite, enfin, c'est complètement atroce, hein, la situation dans laquelle nous plonge Dostoïevski, parce que, en fait, Troussovski, mais, enfin, je peux pas tout raconter non plus, mais c'est un personnage extrêmement étrange, hein, un personnage dit de sous-sol, il fait penser à Svidrigaïlov dans Crime et Châtiment, mais ce qu'il y a chez Dostoïevski, c'est qu'il passe toujours presque de l'ange au démon en une fraction de seconde ou en une scène. C'est ça qui est extrêmement diabolique chez Dostoïevski, c'est sa volonté de ne pas dépeindre l'homme ou noir ou gris, je ne sais plus comment on dit, mais de confondre ça complètement, ce qui fait que c'est très dérangeant, et en même temps c'est d'une intelligence crasse, parce que la vie est faite comme ça. Mais là on est quand même dans des bas-fonds d'une certaine perversion, mais nous notre but c'est de créer du plaisir aussi de théâtre là-dedans. Mmh. Hein, voilà, et de la drôlerie si on y arrive, et ce rapport voilà qui paraît qu'on de la folie qui nous fasse rigoler, où on se dit mais c'est pas possible, c'est de là, c'est pas possible.
Oui, voilà, on peut aborder des thématiques ou des sentiments complexes, voire durs, le tout avec humour.
Oui, enfin pas tout le temps, mais là, c'est le plaisir du théâtre, quoi. Ouais, c'est quand même d'essayer de rire de choses qui sont absolument dramatiques, parce que sinon, on a envie de se pendre. Donc il y a toujours le plaisir du théâtre qui nous rassemble. Et puis moi, quand j'ai pensé à Fred et Jacques, c'était cette chose là, c'était le plaisir du jeu et le plaisir du théâtre, quoi.
Oui. Alors là, on va dire peut-être que on trouve dans les différents sentiments l'égoïsme, la jalousie, le désir, les passions, mais aussi la faute, le mal, la culpabilité, l'abandon, beaucoup de choses, hein, c'est hyper riche.
Très très riche.
Et alors, est-ce que on peut dire que vu que c'est
mais c'est vrai que je t'excuse. Non, mais parce que je voulais rajouter ce que vient de dire Nicolas. Moi, ce qui me fait rire finalement, c'est dans les deux statues des personnages qui se cherchent, s'affrontent, quoi, psychologiquement, c'est leur inconséquence, quoi. Les deux sont inconséquents à leur manière, et en effet, ce personnage Troussovski qui débarque dans la vie de Veltchaninov, il est capable plus du pire que du meilleur, mais en effet, quand il est capable du meilleur, il est humainement d'une pureté absolue, donc c'est très très déstabilisant sur la psyché humaine.
Il est quand même question aussi d'une enfance
maltraité.
Sacrifié, maltraité.
Oui, complètement.
Ouais. Est-ce que vous voulez bien nous dire un second extrait? Carrément, en direct, comme ça, au micro?
Vous êtes résolu à être heureux à n'importe quel prix, j'ai l'impression. Hein.
Oui, n'est-ce pas? Je suis un éternel mari, n'est-ce pas? Cette formule-là, je la connaissais de vous depuis longtemps, Alexei Ivanovitch, du temps encore, n'est-ce pas, où vous viviez avec nous. Il y a beaucoup de vos mots dont je me souviens de cette année-là. La dernière fois, quand vous avez dit ici un éternel mari, j'ai compris ça, n'est-ce pas? Pardon, Alexei Ivanovitch, vous savez, je ne peux pas sans ça, n'est-ce pas? il faut que je me marie, Alexei Ivanovitch. Sinon, qu'est-ce que je vais donner? Vous voyez bien vous-même, n'est-ce pas? Et ça, ce n'est qu'un centième, n'est-ce pas, de mes qualités. Je ne peux pas du tout, n'est-ce pas, sans le mariage et, n'est-ce pas, sans une nouvelle foi. Je la connaîtrai et je ressusciterai.
Pourquoi me dites-vous tout ça? Mais dites-moi enfin, pourquoi vous m'avez traîné là-bas, à moi? Pourquoi avez-vous eu besoin de moi?
Pour voir, n'est-ce pas?
Voir quoi?
L'effet, n'est-ce pas? Voyez-vous, Alexei Ivanovitch, hier je me suis dit, mais je ne l'ai jamais encore vu en compagnie, n'est-ce pas, d'un autre, je veux dire, n'est-ce pas, d'un autre homme en dehors de moi-même. J'ai eu trop envie, n'est-ce pas, suite à mon sale caractère.
Et alors?
Rien.
De toute façon, je n'y remettrai plus jamais les pieds.
N'est-ce pas? Merci, merci Jacques Heller, Fred Bory. Donc voilà, un extrait de L'Éternel Mari de Dostoïevski, enfin une libre adaptation, on va dire, hein, de Nicolas Autant, aussi à la mise en scène. Donc, mais vraiment à voir, hein. C'est donc à compter de jeudi, c'est-à-dire la semaine prochaine, hein, jusqu'au samedi 4 donc novembre. Les jeudis et vendredis, les jeudis et vendredis, c'est à 20h, le samedi à 19h. C'est une programmation domaine d'eau et ça se joue au Théâtre d'eau. Donc vous arrivez à l'avance parce qu'il faudra traverser tout le parc. Hein. Donc vous l'avez dit, vous aurez d'autres dates en région et ça c'est vachement bien. Voilà, Narbonne, Châlons-en-Champagne, Alès, Uzès, Théâtre Jacques Cœur de Latte pour les Montpelliérains le 3 février qui n'auraient pas pu voir la pièce. Que dire pour terminer?
Bah rien. merci Annick, hein, on était très contents.
Bon, alors je vais résumer, vous allez me dire si ouais. C'est bien ou pas. Une comédie sous psychotrope. Grotesque et tragique, ouais. Une comédie au vitriol dont nous ne ressortirons pas indemnes.
Bon, ben voilà.
C'est un peu ça. Oui.
C'est bien dit. C'est
ouais,
bien.
C'est super bien dit.
Bon, et ben écoutez, un grand merci.
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 William, on n'a pas le temps là de passer le dernier extrait qu'on avait reçu ou pas? Non, mais on a eu trois extraits déjà. C'est bien. Merci beaucoup. Une toute petite respiration musicale. Et puis, on passera à la seconde partie de votre émission Scénorama avec Anne-Lise pour le théâtre de la Vista. Yes, Scénorama, votre émission dédiée à l'actualité culturelle avec rediffusion. Donc, c'est le vendredi à 11h. Rediffusion le soir même à 20h, plus le samedi à 12h10 et écoutable en podcast sur radiofmplus.org. Pour cette seconde partie, donc, Anne-Lise Salon, donc responsable artistique avec Vanina Castelli du théâtre La Vista La Chapelle, un lieu de culture que nous suivons et soutenons depuis sa création. Alors, Anne-Lise, est-ce que vous voulez nous faire une petite synthèse de son historique, parce que l'historique est long, mais c'est aussi l'occasion de rendre un nouvel hommage à cette mécène incroyable, Mimi Vergne, à sa première directrice, Lise Sinou. Et je précise en amont que La Vista aussi, c'est une association.
Tout à fait.
C'est toujours une association.
C'est toujours.
Voilà.
Oui, oui.
Donc, démarrage, c'était en quelle année?
Dans les années 2000, en décembre 2000 pour être très exact. Donc ça fait maintenant 23 ans que l'association La Vista existe. Et comme tu l'as justement dit, à sa création, elle était hébergée dans la cour Vergne, dans le quartier de Figueroles, grâce à cette fabuleuse mécène qui était Mimi Vergne, qui, quand son mari est décédé, a refondé la scierie. C'est parce qu'il était propriétaire d'une scierie et elle en a fait une friche culturelle pour héberger compagnie, radio, théâtre, etc. Oui. etc.
C'était vraiment un espace magnifique. Et malheureusement, donc, Mimi est décédée. la famille a vendu, parce que c'est quand même un terrain énorme, en plein cœur de Figueroles. Là, c'est encore en construction, mais ça va être des bâtiments, hein, des immeubles.
Le bâtiment monte, l'immeuble monte.
Je suis encore passé devant récemment, ça avance. Et du coup, quand même, compte tenu de la vente de cet espace, le maire de l'époque, Philippe Sorel, a proposé à l'association de déménager vos activités à la chapelle située donc au cœur de la cité Gély, une chapelle désacralisée qui a été longtemps aussi un lieu tenu par Étienne Schwartz. Hein.
Tout à fait.
Et donc, c'est Jonathan Chevalier, hein, avec votre équipe dont vous étiez déjà partie, qui a...
On a participé à l'élaboration des plans pour modifier le lieu qui était auparavant exploité par Étienne Schwartz et l'association Music Events, où il faisait de la diffusion, de théâtre contemporain, tout ça. C'était un lieu très épuré. Et quand nous, on est arrivés, on a... participer à l'architecture d'une boîte noire, en fait, parce que c'était nécessaire pour faire notre activité de diffusion de spectacles pour le jeune public et pour toutes les familles.
Là, vous avez vraiment un vrai théâtre.
Tout à fait. Hein,
voilà. Donc, Jonathan a décidé de partir et du coup, c'est tout naturellement que Vanina et vous avez pris la relève.
Tout à fait. Alors Vanina, c'est le pilier de notre association. Oui. Elle est salariée depuis 16 ans maintenant.
Oui, donc, on lui fait un coucou, Vanina.
Voilà. Et donc, toutes les deux, on a relevé le défi de faire perdurer ce beau projet associatif. Et donc, on est en poste depuis janvier. Elle est responsable administrative et moi, je suis responsable artistique. Ouais, et en tout, nous sommes 5 salariés et personne à temps plein, mais on arrive quand même à faire ce qu'on veut.
Oui. Et en fait, pas mal de filles au total.
Tout à fait.
Hein, dans les 5, vous êtes 4.
C'est ça. Hein, c'est ça. On a encore Alexandre Jarlégan, qui est quand même notre régisseur général et que j'embrasse aussi.
Et alors, les deux autres, du coup, on peut les citer.
Alors, les deux autres, nous avons Sarah Dequevouvillier, qui est responsable des relations publiques, et Ornella Dussol, qui est une habitante du quartier qu'on a embauchée pour faire la médiation sociale avec le quartier et la billetterie et plein d'autres choses dans le théâtre.
Et qui est devenue une star en théâtre. Mais on en reparlera en toute fin d'émission. Voilà. Alors, quels sont les grands axes et actions du théâtre La Vista à la Chapelle?
Alors, nous avons vocation à diffuser des spectacles et notamment spécifiquement la création régionale. On a la chance d'être dans une région, voire même une localité, je vais dire, très, très culturellement active. Et donc, on diffuse des spectacles tout jeunes pour les aider à affiner leur création. Et beaucoup de jeunes publics, car on a un grand pan de nos projets qui est de permettre à tous les enfants de Montpellier d'accéder au spectacle vivant et aux familles, parce qu'on a aussi des spectacles à partir de 12 ans qui sont notamment destinés à toutes les familles et aux adultes.
Oui, c'est vraiment essentiel que nos compagnies, nos artistes aient des lieux de travail comme chez vous. À la Vista. Alors, en plus des séances publiques, vous organisez aussi de nombreuses représentations pour les groupes.
C'est ça. Alors, cette année, on a 21 compagnies qui viennent diffuser chez nous et elles font à chaque fois une séance tout public, ouverte à tous donc, et une séance est organisée pour les groupes. Et on a pour cela une quarantaine de partenaires avec qui on travaille chaque année, qui sont constitués de groupes scolaires, écoles, même des crèches maternelles, primaires, collèges, lycées et aussi des associations, notamment du quartier ou issues des quartiers prioritaires de la ville.
Et oui, l'éducation artistique, c'est tellement important.
Tout à fait.
Alors, votre programmation est pluridisciplinaire. Donc, comme vous l'avez dit, à destination pour une grande partie au jeune public. des tout petits, ça démarre à 6 mois, jusqu'à, voilà, on a dit 11, 12 ans, mais donc du coup aussi bien à destination des parents et des grands-parents.
Tout à fait. Cette année, on a même un spectacle destiné aux plus de 16 ans, sur des sujets très, très compliqués à aborder.
Ah bah, dis-en deux mots, tiens.
Alors c'est un partenariat qu'on fait avec le festival Mime in Motion. Donc le festival du mime et du geste.
En fin de saison, c'est bien ça.
Oui, porté par Janaïna Toupan, avec qui on travaille régulièrement au sein du quartier. Et donc elle va programmer deux spectacles chez nous, notamment le spectacle Sweet Disaster, qui est un spectacle sur la disparition volontaire. Donc un sujet très grave et donc accessible à partir de 16 ans.
Donc la fugue.
Non, la disparition volontaire d'une personne qui veut complètement disparaître de la vie qu'il mène actuellement et qui va changer de vie complètement, d'accord, disparaître. C'est pas vraiment une fugue, c'est un petit peu, ça va un petit peu plus loin.
D'accord. Ah oui, intéressant. Ouais. Et donc voilà, à l'affiche du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque, du mime, vous l'avez cité avec ce moment fort en fin de saison. Avant de rentrer dans le détail de la programmation, on va faire un coucou à la compagnie Bruit qui court, qui a fêté chez vous ses 20 ans d'existence. Un vrai compagnonnage entre vous.
Oui. Ah oui, bah, la compagnie Bruit qui court était hébergée au sein de la cour Vergne, tout comme nous.
Et oui.
Donc, on la connaît depuis ses débuts. Donc, elle a fêté ses 20 ans là, chez nous. Donc, on a eu une semaine très mouvementée et très rigolote avec beaucoup d'artistes qu'on connaît beaucoup qui sont passés pour créer ce spectacle. Ouais. Et on a eu la chance d'avoir deux soirées très festives, très drôles parce que ce sont tous des clowns.
Ouais.
Des clowns modernes. Et c'était très émouvant.
Oui, oui, oui. Alors, ce samedi 21, vous nous proposez un théâtre musical dès 3 ans par la compagnie Mélie Melody. C'est bien ça?
C'est ça.
Vous voulez nous les présenter?
Alors, la compagnie Mélie Melody, là, ça va être deux artistes qu'on suit aussi depuis assez longtemps, Esther Thibault et la Marion Guy, qui nous donnent avoir un théâtre musical très poétique et accessible à partir de 3 ans. Et elles nous font revivre là tendrement des plaisirs simples, des choses des grands rituels de la vie d'un enfant, hein, parce qu'on s'adresse aussi à l'enfant, aux parents aussi, parce que les chansons sont très jolies à entendre. Et leur univers tendre est très poétique et est à la croisée de musique traditionnelle, musique actuelle. Elles utilisent des instruments du monde. Voilà, elles explorent des univers sonores aussi bien, je crois, japonais. Il y a des chansons japonaises, des chansons polonaises. Et donc, c'était un condensé d'émotions.
On écoute un petit extrait sur Radio FM+.
1, 2, 1, 2, 3. Y'a les pas des papas qui font tous de grands pas. Attends, papa, je marche dans tes pas. Et si jamais, papa, je fais quelques faux pas, je sais, papa, que tu seras là. T'es plein de papas. Un papa ours parfois, un papa raplapla, un papa poule comme ça. Papa matin, papa câlin, papa malin, t'es tout ça à la fois.
Donc, chaque jour, une petite vie par la compagnie Mélie Melody. À découvrir ce samedi 21 au théâtre La Vista La Chapelle. C'est à 16h, ça dure 35 minutes.
Oui.
Hein, voilà. Alors, on va parler des tarifs, et comme ça sera fait. Il faut compter entre 12, 10 et 6 euros.
Oui.
Il y a des passes, il y a des abonnements. Enfin, hein, voilà.
Oui, voilà. Il y a un gros travail. Alors, les tarifs sont un petit peu pareils un peu partout, entre les tarifs réduits, les pleins tarifs, etc. Mais nous, on a la particularité d'avoir développé un projet qui s'appelle le Pass Vista avec les habitants des quartiers prioritaires qui permet aux habitants de ces quartiers-là d'accéder au spectacle vivant au tarif de 2 euros.
Ah oui, cool. Oui, oui. Oui, puis alors un truc, je vais le dire de suite, chers auditeurs, auditrices. Il y en a certains d'entre vous qui n'osent pas aller à la Cité Génie. Et vraiment, vous avez tort. Parce que déjà, en plein jour, il n'y a aucun souci. Beaucoup de vos spectacles sont ou en matinée ou l'après-midi. Et les spectacles du soir, pareil, il n'y a aucun problème. Vous n'allez pas vous faire égorger.
Non.
Voilà, moi, ça fait des années que j'y vais. Et oui. En plus, voilà, vous avez le tram qui n'est pas loin, c'est l'arrêt Arceau. Mm-hmm. Vous avez des parkings, enfin, vous pouvez vous garer facilement. Vous avez des bus... Le 11 et le 3, oui. Voilà. Donc,
et bientôt, on aura le tram, j'espère.
Eh ben oui.
Pas loin.
Dans quelques années.
Oui, dans quelques années. Mais on l'attend. Ça va encore rapprocher, faciliter l'accès au théâtre. On est quand même assez contents.
Oui. Donc franchement, allez-y. Quoi. Ce serait dommage de vous priver de beaux spectacles. Hein.
Mm-hmm.
Voilà.
Et puis, il n'est pas impossible qu'au détour d'une rue, vous voyez des gens avec une guitare.
Mais oui, voilà, tout à fait. Tout à fait. Et voilà, vous avez certaines rues du cœur de ville qui sont encore plus insécuritaires, on va dire encore plus dangereuses que la Cité Génie. Donc voilà. Et puis c'est pas grave si vous voyez des dealers, etc. Ils en ont rien à cirer de vous.
Oh non.
Hein, voilà. Donc vous serez pas embêtés avec ça. Ça fait partie du folklore, les dealers. Voilà. Non, et puis il y a des gens quand même vraiment super. Je pense notamment à l'association qui organise le festival Gypsy.
Tout à fait.
Ce sont vraiment que des belles personnes.
Tout à fait.
Lily, Bayardo, qu'on adore.
Enfin, c'est ça.
Il y a vraiment des très, très belles personnes.
Il y a des belles figures au quartier.
Ah oui. Oui, oui. Bon, alors, vu qu'il y a beaucoup de spectacles à voir à la Vista La Chapelle, nous avons fait une petite sélection. Hein. Alors, on va passer au samedi 11 novembre pour les jeunes, puisque c'est dès un an. Vous nous présentez ce spectacle, Annelise ?
Alors, ce spectacle-là, c'est la compagnie Pique et Collégramme qui l'a préparé, qui s'appelle Au creux d'oreille. Et c'est un spectacle, effectivement, pour les bébés. Et elles vont faire leur première chez nous. Donc, on a à cœur d'aider les compagnies à pouvoir créer et éprouver leur spectacle pour la première fois. C'est le cas pour celui-là. Et notamment, on leur prête le plateau une semaine en amont pour qu'elles le finissent et qu'en plus, elles fassent un travail de territoire. Elles vont aller collecter des chansons, des comptines dans le quartier pour pouvoir les intégrer au spectacle ensuite.
Ah, ok. Alors, on écoute un petit extrait.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, que tu mamá está en el campo, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer chocolate para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el lobo blanco, le atrapa la patita, chica pum, chica pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme.
Au creux de l'oreille. Donc la nouvelle création de la compagnie Pique et Collégramme pour les enfants à partir de 1 an. Mais on va y aller, moi je vais emmener le niard de ma voisine. Et comme ça je pourrais profiter parce que ça a l'air trop chouette et je pense que ça va être vraiment un moment précieux. Donc c'est le samedi 11 novembre à 10h.
Oui.
Ah, ça fait trop tôt 10h.
Oh, mais c'est pour les petits tout.
Oui, et ça durera 25 minutes.
Oui.
Alors, le 24 novembre, là aussi une création et en première à la Vista, La vie est un son, pas un songe, La vie est un son, Sigismonde.
Oui.
Alors.
Alors, La vie est un son de Sigismonde. La vie est un son, Sigismonde, moi aussi je m'y perds. C'est la compagnie de théâtre Tchouchak qu'on aime beaucoup, notamment parce qu'on travaille très régulièrement avec Jérémy Prouietti et Bruno Meria. Et là, c'est Jérémy qui a voulu adapter la pièce de théâtre écrite par Calderon au XVIIe siècle, La vie est un songe. Et c'est une pièce où on propose une réflexion sur l'illusion, sur la réalité, le jeu et le songe. Et là, Jérémy et Bruno, qui se sont rencontrés pour jouer la pièce Le Dompteur de Sonimo,
oui,
qu'on connaît de la Cheesecake Company,
bien sûr,
et bah, ils se sont rencontrés sur un dispositif scénique où le comédien sur scène dialogue avec le technicien qui joue avec les sons. Et donc, ils ont réadapté, utilisé ce stratagème pour adapter cette pièce de Calderón. Et là, ils vont nous raconter l'histoire de Sigismond qui pense arriver à une audition pour le rôle dans La vie est un songe, voilà, de Calderón. Et donc, il rencontre à cette occasion-là Clotaldo, qui sera la manipulateur de son et qui va soumettre aux épreuves de la pièce Sigismond. Et donc, on va poser des questions métaphysiques, philosophiques, autour de l'amour, l'honneur, la justice, le bonheur, la liberté. Et c'est une version, je pense, moderne. Donc, je n'ai vu que des extraits pour l'instant, vu que c'est une nouvelle création, bien évidemment. Mais je pense que ce dispositif scénique, singulier, où le rôle de Clotaldo est interprété par des haut-parleurs, quand même, sur scène, où ce geôlier devient éducateur de Sigismond, j'ai très hâte de voir ce spectacle.
Oui, ça donne très envie. Donc, c'est le 24 novembre, à partir de 11 ans, mais pas que. C'est à 20h, donc tout public, venez. Ça dure 50 minutes. On écoute un extrait sur Radio FM+.
Sigismond est dans la place. Ouais, menacé par l'influence de son étoile. Jouets des terreurs, des chimères, des plus tragiques disgrâces. Sinistre destinée, emporté vers l'abîme. Académie de tous les vices. Que le ciel me soit en aide, que vois-je? Que le ciel me soit en aide, qu'aperçois-je? Libre, comme le cristal des eaux, la bête sauvage, le poisson ou l'oiseau. Où est passée cette tour qui du premier au dernier jour était à la fois et mon berceau et ma demeure?
Ça balance, et donc ce sera le 24 novembre par la compagnie Tchoutchak, pardon, leur nouvelle création. Alors, puisque voilà, on est dans la musique, eh bien, deux mots sur le spectacle-concert qui aura lieu le 16 décembre en coopération avec la salle Victoire 2. Et c'est vrai que c'est un spectacle pour des enfants à partir de 6 ans. Donc, la Vista La Chapelle est beaucoup plus adaptée, en fait, qu'une salle de concert comme V2.
Tout à fait. Hein, le partenariat avec V2 est important pour nous, autant que pour eux, parce qu'ils avaient envie d'aller vers la diffusion de théâtre plus visuel, de spectacles musicaux plus visuels, pardon. Et du coup, ils ont fait appel à nous pour ce partenariat. Et c'est pour ça qu'on comprogramme cette année le Zarbizo. Et le Zarbizo, ça va être un... De Poussin Musique, quand même, je cite la compagnie. Ça va être un spectacle visuellement magnifique, parce que le décor est somptueux. Et c'est un spectacle qui mêle des objets insolites, des paysages musicaux et des chansons électroniques. Et ça parle de deux personnages qui partent à la recherche d'un œuf d'or. L'œuf d'or de je sais pas quoi, la star des animaux du Zarbizo.
Ça donne très envie. Donc c'est le 16 décembre au théâtre La Vista La Chapelle à partir de 6 ans et c'est à 16h. Alors on termine avec un bonus dédié à la compagnie La Chouette Blanche qu'on aime beaucoup, aux compagnies qui est associée à La Vista. Et où nous avons pu voir, moi je me souviens, je l'ai vu à la création, donc c'était l'année dernière. En janvier l'année dernière. Les auditeurs ou le public a pu, donc je parle de Pink, la dernière création, ont pu voir ou revoir ce spectacle pendant le festival Gypsy.
C'est ça.
Voilà. Et donc là, voilà, on va terminer en musique avec la fameuse chanson de Rosalia qui s'intitule « Saoko ». Interprétée par la magnifique notre magnifique
moi aussi j'ai un trou c'est pas possible.
Bon, eh ben tant pis, on y va. Musique. Anne-Lise, un grand merci. Merci à William qui est à la technique. Merci à vous chers auditeurs et rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye. Saoko, papi, saoko, saoko, papi, saoko, saoko, papi, saoko.